Bonsoir, je crois que le texte biblique qui est un peu au cœur de cette convention va vous être projeté, si tout va bien. Il se trouve dans l'épître de Paul à Tite, au chapitre 2, et nous lisons les versets à partir du verset 11, dans la traduction second dite à la colombe. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au désir de ce monde et à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le Christ Jésus. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les œuvres bonnes. La grâce de Dieu a été manifestée. Dieu nous a révélé sa grâce. Un mot qui signifie que notre salut, notre délivrance, c'est son œuvre exclusive. Nous n'y sommes pour rien, faut-il le rappeler. Mais Paul va plus loin. Il écrit que la grâce de Dieu œuvre dans notre vie. Elle nous enseigne. Elle nous enseigne. Elle est un pédagogue patient. Patient parce que nous sommes lents. Et parce que la logique de la grâce, qui est celle du Seigneur lui-même, nous est tellement étrangère, mais elle nous conduit dans une façon de vivre tellement nouvelle, tellement différente. Alors je vais prendre une image pour comprendre cette œuvre de la grâce dans notre vie. Je ne sais pas nager, imaginons que je ne sais pas nager, que je tombe d'un bateau dans une eau profonde, je n'ai pas pied, je vais me noyer. Un sauveteur au bord de l'eau entend mon appel au secours, il nage jusqu'à moi et me tire de l'eau. Ça, c'est le salut. Une image du salut. Mais tous les sauveteurs vous diront qu'il est très difficile de secourir quelqu'un en train de se noyer. Pourquoi ? Parce que sous l'effet de la panique, il vous agrippe par la tête ou par les épaules. Et dans sa panique, il bloque vos propres mouvements au risque de vous faire couler avec lui. Il faut donc pratiquer, quand on est un maître sauveteur, un nageur sauveteur, il faut pratiquer ce qu'on appelle une prise de dégagement, c'est-à-dire une sorte de clé pour obliger, pour immobiliser la personne qui est en train de se noyer, qui panique, pour pouvoir la rendre docile et la remorquer en toute sécurité jusqu'au rivage. Alors plus tard, cette personne pourra apprendre à nager, ou à se méfier des endroits dangereux, interdits à la baignade, pour pouvoir goûter les plaisirs de l'eau sans aucun risque. Alors vous voyez, le Seigneur, on peut dire que le Seigneur est un maître sauveteur, puisqu'il nous sauve, mais le Seigneur est aussi un maître nageur. C'est cette œuvre de la grâce que Paul développe dans notre texte. Le salut, l'œuvre de Dieu en Christ, ce n'est pas seulement la promesse que nous sommes ses enfants, que plus rien ne peut nous séparer de son amour. Par la grâce, je suis invité, poussé, appelé à vivre comme son enfant. Je n'ai plus peur de perdre pied, pour reprendre l'image que je prenais à l'instant de la noyade. Désormais, je vis autrement, mais il faut laisser le sauveteur prendre en main ma vie. Il faut le laisser me conduire. Il faut lâcher prise, un peu comme la personne, vous savez, qui panique, qui se débat. Elle ne pourra pas être sauvée tant qu'elle ne s'en sera pas, elle ne se sera pas laissée conduire par le sauveteur. Paul écrit justement quelque chose de cet ordre-là, qu'il nous faut lâcher prise. La grâce nous enseigne à renoncer, à renoncer. Et le texte, le terme grec qu'il emploie, c'est même le mot renier. Renier. Vous savez, c'est le même verbe que Jésus emploie quand il appelle Pierre et les autres disciples à tout laisser pour le suivre. Il faut se renier soi-même. Faute de quoi, ben c'est Jésus qu'on va renier. Et Pierre en sait quelque chose. Hein. Il n'a pas voulu faire cet acte de renoncement à lui-même, à son orgueil, à ses prétentions. Il a renié Jésus. Une des définitions du dictionnaire pour le verbe « renier », c'est renoncer à reconnaître quelqu'un ou quelque chose comme étant à soi. Par exemple, si vous reniez votre enfant, c'est que vous ne le reconnaissez pas comme votre enfant. Se renier soi-même, à s'appartenir soi-même et à accepter d'appartenir à Jésus. Et nous voilà au cœur du sujet. Pour reprendre l'image que je prenais du sauvetage d'une noyade, c'est ne plus me laisser engloutir, submerger, par tout ce qui me séparait de Dieu, tout ce que Paul énumère, l'impiété, les désirs de ce monde, etc. En laissant le Seigneur me diriger. Je n'ai plus peur de la vérité. Alors je peux dire non aux mensonges, à tous mes faux semblants, à toute hypocrisie. Je suis comblé par l'amour de Dieu pour moi, par la joie qu'il me donne, alors je ne me ronge plus de convoitise. Je ne m'impère plus à envier ce qui est aux autres et à vouloir toujours plus. Je peux laisser mes haines et mes rancunes et devenir le prochain de ceux et celles que le Seigneur place sur mon chemin et même, pourquoi pas, les aimer. Je ne cours plus désespérément après le bonheur. Car j'ai enfin compris que le bonheur, il se reçoit, il ne se gagne pas. Et vous savez que courir après le bonheur, c'est le meilleur moyen de rester toujours malheureux. En un mot, je peux avoir le souci des autres et être délivré du souci de moi-même, parce que c'est Dieu dans son amour, dans son amitié pour les humains. L'apôtre Paul parle de la philanthropie de Dieu, même, au chapitre suivant. Oui, c'est Dieu qui se soucie de moi et me donne l'héritage inestimable de cette vie éternelle qui commence aujourd'hui. Et puis je n'ai plus besoin de m'élever au-dessus des autres, de chercher à prouver que je suis le meilleur, parce que Dieu me donne par la foi qui m'unit à Jésus-Christ la plus belle place, le plus beau titre qui soit. Il me dit, et je peux le recevoir dans la foi, « Tu es mon enfant. Tu m'appartiens. » Voilà la sobriété, la pondération, la vie sensée dont Paul parle ici et que nous enseigne la grâce de Dieu. Quand j'ai vraiment goûté à ce nectar qu'est le vin nouveau de l'Évangile et de la vie en Christ, cette joie d'appartenir au Seigneur, je n'ai plus envie de m'abreuver de tous les gros rouges qui tâchent, de tous les plaisirs et valeurs frelatées que le monde peut m'offrir. Il y a un penseur chrétien, je ne sais plus si c'est Pascal ou Kierkegaard, mais peu importe, qui disait « Seul l'absolu rend sobre. » Et la clé de cette sobriété qui nous délivre de toutes nos ivresses, c'est que nous ne nous appartenons plus nous-mêmes. Nous appartenons au Christ. Je ne m'appartiens pas. Ah, ça va radicalement à l'encontre de la mentalité de notre monde. Pour qui ce serait une prison, une aliénation de ne plus appartenir soi-même? Alors que c'est justement le secret de la liberté. Car ne plus appartenir, c'est être délivré du souci de soi. Nos appartenances. Quand nous en parlons précisément, nous évoquons tous ces liens qui nous rattachent à une généalogie familiale, à une histoire, à une mémoire, à une culture, et bien sûr à toutes les valeurs qu'elle porte. Vous savez que c'est le 450e anniversaire de la Saint-Barthélemy cette année. Ça a été l'occasion pour les protestants de se rappeler qu'ils appartiennent à un courant du christianisme minoritaire en France qui fut persécuté, et qui sont fortement attachés à la liberté de culte, à la liberté de conscience. Et on en est fiers, hein. Hein? On est fiers de nos appartenances. Mais voyez le double sens, l'ambiguïté de cette expression « mes appartenances ». Car on se dit que finalement, cette histoire, cette identité, cette mémoire, cette culture chrétienne, diverse hein, selon les dénominations, oui, je leur appartiens, mais au fond de moi-même, j'estime qu'elles m'appartiennent en propre, qu'elles sont mon bien, ce sur quoi je fonde ma fierté, mon sentiment d'avoir de la valeur et d'exister. J'y tiens à ma tribu. Et plus elle est petite, hein, plus elle me donne le sentiment d'avoir une identité supérieure aux autres, de faire partie d'une sorte d'élite. Mais non seulement ces appartenances-là risquent de me séparer des autres, notamment d'autres chrétiens, d'autres traditions, mais elles peuvent finir par remplacer la foi seule en Jésus-Christ ou d'en tenir lieu. Je suis très sérieux. Et je m'en suis rendu compte un jour quand, peu après mon arrivée à Alès, voici à peu près 3 ans, un monsieur est venu me demander, je cite, à être baptisé protestant. Il souhaitait que ce baptême ait lieu dans un temple des alentours d'Alès, parce que, me disait-il, c'était là que plusieurs de ses ancêtres, ses parents, avaient été mariés, communiés, enterrés. Alors je lui expliquais que le baptême avait lieu normalement au cours d'un culte qui rassemble la communauté chrétienne, puisque le baptême est le signe de notre union au Christ, et qu'il n'y a donc qu'un seul baptême. Je lui dis, vous savez, il n'y a pas de baptême protestant, il n'y a pas de baptême catholique, il n'y a pas de baptême pentecôtiste, il n'y a pas de baptême baptiste, etc., etc. Il n'y a qu'un seul baptême, au nom de Jésus-Christ. Alors il m'a regardé d'un air un peu gêné, il m'a dit, ah oui, mais est-ce que vous pourriez me baptiser, mais sans parler de Jésus? Bah oui, pour lui, ce qui comptait, c'est le protestantisme. Que cherchait-il cet homme au fond? Il cherchait une assurance, il cherchait une sécurité, à travers une tradition d'appartenance glorieuse, illustre, afin de construire lui-même son identité, dont il voulait dessiner lui-même les contours. Nous en cherchons des assurances face à tous les aléas de la vie. Et nous en cherchons d'autant plus que l'avenir n'a jamais été aussi incertain, que ce soit du fait du changement climatique. De toute façon, vous savez que les compagnies d'assurance ne pourront bientôt plus rembourser les dégâts causés par les incendies, les sécheresses, les orages et les inondations. Et puis, il y a aussi les incertitudes nées du compte des conflits avec la menace grandissante d'une escalade à l'est de l'Europe, sans oublier les incertitudes sur l'économie, les incertitudes sanitaires avec la pandémie qui redémarre, et puis le risque d'une crise sociale liée à l'inflation qui montre le bout de son nez aussi. Oui, on cherche des assurances. Oui, on a peur. Alors on se crispe sur ses appartenances. Ça m'appartient, ça. Ça, au moins, ça, c'est pour moi. J'aime ce vieux cantique qui commence ainsi. Le mal est là et Satan gronde. Dites, amis, avez-vous peur? Le mal est là et Satan gronde. Dites, amis, avez-vous peur? Nous n'avons qu'une peur au monde, c'est d'offenser notre Seigneur. Et si, comme si nous y invite ce chant, nous échangions toutes nos peurs, toutes nos angoisses contre une seule crainte, la crainte, c'est-à-dire le respect du Seigneur. Crainte synonyme de sagesse, crainte qui n'est pas une peur paralysante, mais au contraire l'assurance d'être délivré de toute peur, que ce soit du présent, du passé ou de l'avenir, que ce soit la peur des autres, la peur de ne pas compter, la peur de ne pas exister, la peur de toutes les puissances qui sont à l'œuvre et qui menacent de nous écraser. Parce que le Seigneur désormais a pris les commandes de ma vie. Je n'ai plus peur d'être englouti. Parce que je suis avec lui, parce que je lui appartiens. La deuxième strophe du cantique que je viens de citer dit « Entendez-vous railler le monde, prétendez-vous à quel honneur ?» Nous n'avons qu'un honneur au monde, c'est l'honneur de notre Seigneur. Et si, comme nous y invite cette deuxième strophe, nous arrêtions de nous soucier de notre image, de notre identité, du regard des autres, pour ne glorifier que Dieu en cherchant sa volonté, même si cela peut déplaire autour de nous, même si pour cela il nous faut nous dépouiller d'une certaine tranquillité. Quelle est ton unique assurance dans la vie comme dans la mort, demande un vieux catéchisme du XVIe siècle. La réponse, c'est que dans la vie comme dans la mort, j'appartiens à Jésus-Christ. Notre identité nous est donnée par la foi en Jésus-Christ. En lui, Dieu me déclare, tu es mon enfant. Et cela nous suffit.